vivre dans Mercedes Street n'avait rien d'une expérience édifiante. Dans la journée, ça pouvait aller. Mais après l'école, la rue retentissait des cris des enfants, tous vêtus de frusques trop grandes déjà portées par leurs aînés, des lamentations de leur mère autour des boîtes aux lettres ou des cordes à linge dans les jardins de derrière, du tapage des pots d'échappement trafiqués sur les vieilles caisses rouillées des grands ados et des beuglements de leur radio branchée sur K-Life. Les heures d'entre 2 et 6 du matin étaient les meilleures. Là, une sorte de silence pétrifié s'abattait sur la rue. Quand les bébés souffrant de coliques finissaient par s'endormir dans leur berceau ou leur tiroir de commode, et que leur père s'acheminait en ronflant vers une autre journée de salariat rémunérée à l'heure dans les magasins, les usines et les fermes des environs. Mais entre 16 et 18 heures, la rue était un déchaînement de mères hurlant à leurs gosses de rentrer, et plus vite que ça, pour faire leur corvée de la journée, et de pères rentrant du boulot pour gueuler après leurs femmes, probablement parce qu'ils n'avaient personne d'autre sur qui gueuler. Beaucoup de ces femmes ripostaient et rendaient invective pour invective. Les buveurs, eux, commençaient à rentrer au bercail vers les 20 heures, et le chahut montait vraiment dans les aigus autour de 23 heures, une fois les bars fermés ou l'argent venant à manquer. Là, j'entendais des portes claquer, du verre se briser, et des cris de douleur percer la nuit quand père et mari biturés s'en prenaient à leur femme, à leur gosse ou aux deux. Bien souvent, il arrivait que je voie clignoter des lumières rouges à travers mes rideaux tirés quand les flics débarquaient. Plusieurs fois, il y eut même des coups de feu, peut-être tirés vers le ciel ou peut-être pas. Et un matin, alors que je sortais acheter le journal, j'ai vu une femme avec la moitié du visage couverte de sang séché. Elle buvait une Lone Star, assise sur le trottoir devant chez elle, à 4 maisons de la mienne. J'ai failli aller m'assurer qu'elle allait bien, même si je savais l'imprudence qu'il y avait à se mêler de la vie des gens dans ce quartier populaire déshérité. Puis elle m'a vu la regarder et m'a aimablement présenté son majeur dressé. Je suis rentré chez moi sans moufter. Il n'y avait pas de comité de bienvenue pour les nouveaux arrivants dans Mercedes Street, ni aucune femme du nom de Muffy ou de Buffy partant au petit trot aux réunions de volontaires de sa Junior League. Ce qu'il y avait dans Mercedes Street, c'était beaucoup trop de temps pour penser. Du temps pour regretter les amis de Jody. Du temps pour regretter le travail qui m'avait distrait jusque-là de la mission que j'étais venu accomplir ici. Du temps pour mesurer combien enseigner avait été bien davantage qu'une simple façon de tuer le temps. Ça m'avait comblé spirituellement, comme seul un travail fait avec engagement peut le faire, lorsqu'on sent que son action peut réellement avoir une portée décisive. J'avais même du temps pour déplorer l'état de ma décapotable naguère 6 classes. Outre sa radio HS et ses soupapes poussives, elle lâchait maintenant des pétarades par son pot d'échappement rouillé et s'enorgueillissait d'un pare-brise fêlé par un caillou. J'avais arrêté de la laver, et c'est triste à dire, mais elle était maintenant parfaitement assortie aux autres tas de boue déglingués rangés le long de Mercedes Street. Mais surtout, j'avais du temps pour penser à Sadie. « Vous brisez le cœur de cette jeune femme », m'avait dit Ellie Doherty. Et le mien non plus n'allait pas si bien que ça. L'idée de tout raconter à Sadie m'est venue un soir, où, éveillé dans mon lit, j'écoutais une dispute d'ivrogne dans la maison d'à côté. « Si, tu l'as fait ! Non, je l'ai pas fait ! Si, tu l'as fait ! Non, je l'ai pas fait ! Ah, va te faire foutre !» J'ai repoussé l'idée, mais elle est revenue en force le lendemain soir. Je me voyais, assis en face d'elle à sa table de cuisine, buvant un café dans le soleil éclatant de l'après-midi entrant par sa fenêtre au-dessus de l'évier, parlant calmement, lui expliquant que mon vrai nom était Jacob Epping, que je ne naîtrais que dans 14 ans. En fait, que je venais de l'année 2011 par le canal d'une faille temporelle que mon défunt ami Al Templeton appelait « le trou du terrier ». Comment pourrais-je la convaincre d'une chose pareille ? en lui expliquant qu'un certain transfuge américain revenu de Russie soviétique n'allait pas tarder à emménager de l'autre côté de ma nouvelle rue avec son épouse russe et leur bébé. En lui révélant que l'équipe des Dallas Texans, pas encore appelée les Dallas Cowboys, ni encore devenue l'équipe d'Amérique, allait battre les Oilers de Houston 20-17 cet automne après une double prolongation? Ridicule. Mais que savais-je d'autre de l'avenir immédiat? Pas grand-chose, parce que je n'avais guère eu le temps de le potasser. J'en savais pas mal sur Oswald, mais c'était tout. Elle me croirait fou. Je pourrais bien lui chanter les paroles d'une dizaine d'autres chansons pop qui n'avaient pas encore été enregistrées. Elle continuerait à me croire fou. Elle m'accuserait d'avoir inventé toute cette histoire. N'étais-je pas écrivain, après tout? Et même, en supposant qu'elle me croit, avais-je envie de l'entraîner avec moi dans la gueule du loup? N'était-il pas déjà assez grave qu'elle revienne à Jody au mois d'août, au risque que John Clayton, s'il était un écho de Frank Dunning, ne rapplique pour la retrouver?
« D'accord, descends alors !»
cria une femme dans la rue. Et on entendit une voiture accélérer en direction de Winscott Road. Un ray de lumière passa brièvement par une fente entre mes rideaux tirés et balaya le plafond.
« Enculé !»
hurla-t-elle après le départ de l'automobile. Voilà à quoi ressemblait la vie dans Mercedes Street à l'été 62. « Laisse-la en dehors de ça !» C'était la voix de la raison. « C'est tout simplement trop dangereux. Peut-être que plus tard, elle pourra faire à nouveau partie de ta vie, même une vie à Jody. Mais pas pour le moment. » Sauf que pour moi, il n'y aurait plus jamais de vie à Jody. Vu ce que Hélène savait désormais de mon passé, enseigner au lycée de Denholm n'était plus qu'un rêve fou. Mais que pouvais-je bien faire d'autre? Couler du béton? Un matin, après avoir mis la cafetière sur le feu, je suis sorti pour ramasser le journal sur les marches. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai tout de suite vu que les deux pneus arrière de ma Sunliner étaient à plat. Un gosse en mal d'amusement, resté dehors trop tard le soir, les avait lardés de coups de couteau. C'était ça aussi, la vie dans Mercedes Street. Au cours de l'été 62. Le 14 juin, un jeudi, j'ai revêtu blue jeans, chemise de travail bleue et vieux gilet de cuir, le tout déniché dans une friperie de Camp Bowie Road. Puis j'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans ma maison. Je n'avais pas la télévision, mais j'ai écouté la radio. D'après les nouvelles du jour, le président Kennedy préparait un voyage officiel au Mexique pour la fin du mois. Le bulletin météo annonçait un ciel dégagé et des températures élevées. Le DJ jacassa un moment, puis passa Palisades Park, le tube de Freddie Cannon. Les glapissements et effets sonores de parcs d'attractions en bruit de fond me vrillèrent le crâne. Finalement, je n'y tins plus. J'allais être en avance, mais je m'en foutais. Je suis monté dans la Sunliner, qui arborait maintenant à l'arrière deux pneus rechappés à bandes noires qui contrastaient avec les pneus à bandes blanches à l'avant, et j'ai parcouru la cinquantaine de kilomètres me séparant de l'aéroport de Love Field, au nord-ouest de Dallas. Il n'y avait qu'un seul parking, sans distinction entre stationnement courte et longue durée, et il en coûtait 65 cents pour la journée. J'ai enfoncé mon vieux chapeau sur mes yeux et parcouru à pied les 800 mètres jusqu'à l'aérogare. Deux flics de l'agglomération de Dallas buvaient un café sur le trottoir devant l'entrée. Mais il n'y avait ni garde de sécurité à l'intérieur, ni portail de détection de métaux à franchir. Les passagers montraient simplement leur billet à un type debout devant la porte d'embarquement, puis traversaient à pied le tarmac brûlant jusqu'aux appareils appartenant à l'un ou à l'autre des cinq transporteurs suivants. American, Delta, TWA, Frontier et Texas Airways. J'ai vérifié le tableau d'affichage derrière le comptoir Delta. Il annonçait que le vol 194 était à l'heure. Quand j'ai demandé confirmation à l'hôtesse, elle m'a souri en me disant qu'il venait juste de quitter Atlanta. « Vous êtes très, très en avance. C'est plus fort que moi, je lui ai répondu. Je serai probablement en avance à mon propre enterrement. Elle a ri en me souhaitant une bonne journée. J'ai acheté Time et suis allé m'installer au restaurant où j'ai commandé la salade du chef Septième Ciel. Elle était énorme et j'étais trop nerveux pour avoir faim. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme a la chance de voir arriver l'individu qui va changer le cours de l'histoire mondiale. Mais ça m'a occupé pendant que j'attendais l'avion d'Oswald. J'occupais une banquette offrant une bonne vue sur l'aérogare principale. Celle-ci n'était pas très encombrée, et une jeune femme en tenue de voyage bleu foncé attira mon attention. Ses cheveux étaient torsadés en un chignon soigné. Elle portait une valise dans chaque main. Un porteur noir l'accosta. Elle secoua la tête en souriant, et en passant se cogna le bras au comptoir d'assistance aux voyageurs. Elle lâcha une de ses valises, se frotta le coude, puis reprit son bagage et sa course en avant. Sadie. Quittant le Texas pour entamer ses 6 semaines de résidence à Reno. Étais-je surpris? Pas du tout. C'était encore ce phénomène de convergence. J'en avais pris l'habitude. L'impulsion de quitter le restaurant au pas de course pour la rattraper avant qu'il ne soit trop tard m'a-t-elle assailli? Bien sûr. Un instant, plus que possible, cela m'a paru nécessaire. J'allais lui dire que le destin, oui, plutôt qu'une étrange harmonique propre au voyage dans le temps, nous avait réunis à l'aéroport. Ça marchait bien dans les films, ces trucs-là, non? Je lui demanderais de m'attendre pendant que j'irais acheter un billet pour Reno, et lui dirais qu'une fois là-bas, je lui expliquerais tout. Et après les 6 semaines requises, nous pourrions offrir un verre au juge qui aurait prononcé son divorce avant de nous marier. En fait, j'ai même commencé à me lever. Dans le mouvement, mes yeux sont tombés sur le Time que j'avais acheté au kiosque à journaux. Il y avait Jacqueline Kennedy en couverture. Elle souriait, radieuse, vêtue d'une robe sans manches au col en V. « La première dame en tenue d'été », disait la légende. Comme je regardais la photo, les couleurs se sont fanées jusqu'au noir et blanc, et l'expression de la première dame est passée du sourire heureux à un regard vide. Je la voyais maintenant debout aux côtés de Lyndon Johnson à bord d'Air Force One. Elle ne portait plus sa si jolie et discrètement sexy robe d'été, mais un tailleur en lainage éclaboussé de sang. Je me souvenais avoir lu, ailleurs que dans les notes de Hall, que peu de temps après qu'elle eut prononcé le décès de l'époux de Mrs. Kennedy, Lady Bird Johnson s'était avancée dans le couloir de l'hôpital pour la serrer dans ses bras et avait aperçu posé sur ce tailleur un fragment du cerveau du président défunt. Un président assassiné d'une balle en pleine tête. Et debout, derrière lui, en une file indienne fantomatique s'étirant à l'infini, tous les morts qui viendraient après lui. Je me suis rassis et j'ai regardé Sadie se diriger vers le comptoir Frontier Airlines en portant ses valises. Elle pesait lourd, manifestement, mais elle les portait avec allure, le dos bien droit, ses talons bas cliquetant résolument. Après contrôle, l'employé les plaça sur un chariot à bagages. Sadie et l'homme s'entretinrent un instant. Elle lui tendit le billet qu'elle avait acheté par l'intermédiaire d'une agence de voyage 2 mois auparavant, et il y griffonna quelque chose. L'ayant rempoché, elle s'est tournée vers le portail d'embarquement. J'ai baissé la tête pour qu'elle ne me voie pas. Quand je l'ai relevée, elle avait disparu.